Et bonjour à vous, bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Walter Alexandre, marié à Laetitia, que vous avez vue. On a trois merveilleux enfants qui grandissent bien. Et je suis un évangéliste avec France Évangélisation. Alors quand les gens me demandent ce que c'est un évangéliste, je leur dis, je suis comme un pasteur, mais pas vraiment un pasteur. Et je suis en quelque sorte un pasteur pour les gens de l'extérieur de l'Église, ceux qui ne mettent pas les pieds dans une Église. Et comment est-ce qu'on peut faire justement pour trouver des ponts, pour les comprendre là où ils en sont, dans la douceur et l'amour de Christ, leur apporter la vérité, pas une vérité alternative que la société veut nous donner, ce que Laetitia nous disait, pas le avant-après, non, mais leur apporter Jésus, c'est ça la vérité. Alors cela fait quelque temps maintenant que je ne suis plus venu vous voir, c'est que finalement je n'avais pas de vacances cet été, le rythme était un peu plus cool, mais j'ai quand même bien travaillé et je suis toujours heureux de revenir dans mon église de cœur. Oui, Dieu m'en est témoin, je vous aime de toute l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi vous serez purs et irréprochables au jour du Christ, où vous paraîtrez devant lui chargés d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Bon, quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume, ainsi que je vienne ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle, sans vous laisser intimider en rien par les adversaires. C'est pour eux le signe qui court à leur perte et pour vous, celui que vous êtes sauvé, et cela vient de Dieu. Amen. Ce que je viens de dire, je le crois et je l'espère pour vous, mais ce n'est pas moi qui l'ai dit. Ça fait peur tout de suite. Je me disais bien. Non, je ne parle pas comme ça. Qui a dit ça? Paul. Exactement. C'est Paul dans la lettre aux Philippiens et j'aimerais aujourd'hui réfléchir ensemble avec vous sur ce texte tellement riche et j'aimerais vous donner des outils, des manières pour parvenir à ce que vous produisiez justement des œuvres justes, ce que Paul nous dit dans cette lettre, des œuvres irréprochables qui prouvent que le Saint-Esprit travaille en vous, mais surtout que vous puissiez rester unis à travers l'Église. Alors, on va relire ce texte ensemble. Alors, on va aller dans Philippiens 1, 8 à 11, plus les versets un peu plus loin, 27 à 28. Alors, je vais quand même vous donner un petit contexte. Paul, actuellement, est en prison. On pense fortement que c'est à Rome qu'il est détenu. Et il écrit cette lettre qui est lue à l'église de Philippe. Alors, ça, c'est une ville où Paul, dans son deuxième voyage missionnaire, va implanter une église. Et c'est une église qui va vraiment bien grandir. Si vous lisez Philippiens, vous verrez que Paul ne fait pas beaucoup de reproches à l'église de Philippe. Au contraire, il les encourage à grandir et on voit que l'église grandit bien. Et Philippe, l'église de Philippe, soutient Paul dans sa mission, mais il soutient également quand il est en prison, là actuelle. Et j'aimerais tirer une grande leçon de ce que Paul nous dit là dans Philippiens tout au début. Alors bien entendu, il y aurait beaucoup de choses à voir, mais pour un dimanche matin, c'est déjà pas mal, vous verrez. Il y a un peu de matière quand même. Alors, on va lire Philippiens 1, 8 à 11. 27 à 28. Oui, Dieu m'en est témoin. Je vous aime tous de l'affection que vous porte Jésus-Christ. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement. pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Ainsi, vous serez pur et irréprochable au jour du Christ. Vous paraîtrez devant lui chargé d'œuvres justes, ce fruit que Jésus-Christ aura produit en vous à la gloire et à la louange de Dieu. Si tu peux cliquer un David si jamais j'arrive pas à suivre. Et on passe au verset 27 et 28. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Sans vous laisser intimider en rien par des adversaires. C'est pour eux le signe qui court à leur perte et pour vous, celui que vous êtes sauvé, et cela vient de Dieu. Je reprends le verset 27, qui est un peu le verset central de tout ça. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile du Christ, en vrai citoyen du royaume. Tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Voici le thème que j'aimerais aborder ce matin, soyez radical, mais pas extrémiste. Et justement, j'aimerais vous poser la question, est-ce que Jésus était radical? Est-ce qu'il était extrémiste? Est-ce qu'il était les deux ou aucun des deux? Dites-moi un peu. Il est radical? Ok. Ouais. Quelqu'un dit autre chose? Ouais. Alors, en réalité, c'est un petit piège, parce qu'il faut déjà qu'on puisse définir ce que c'est la radicalité et l'extrémiste. Alors, pour ça, on va définir justement le radical, ça vient du latin radix. Je suis sûr que tu sais ce que c'est, Jackie, radix. C'est le radis, c'est la racine, effectivement. C'est ce qu'on mange hein, sur le radis, c'est la racine. Et ça désigne ce qui touche au plus profond de nous. Qu'est-ce qu'on met, nos racines? Où est-ce qu'on va chercher? Dans quoi on va puiser? Et dans le contexte chrétien, être radical signifie être attaché au fondement de la foi à l'Évangile, la sainteté, l'amour de Dieu. Vivre sans compromis sur les principes bibliques. Suivre Jésus jusqu'au bout, quoi qu'il en coûte. Jésus nous dit dans Matthieu, s'il faut que tu coupes ta main ou que tu arraches un œil, eh bien vaut mieux que tu le fasses que d'être loin de moi. C'est radical, hein ? Ouh ! Le radicalisme chrétien, c'est une fidélité intransigeante à la parole de Dieu, mais sans violence, sans mépris envers les autres, parce qu'on n'est pas extrémiste. Un extrémiste est une personne avec des méthodes violentes et irrespectueuses. Vous connaissez bien la citation « La fin justifie les moyens » et donc on peut faire tout ce qu'on veut. Mais c'est aussi une personne qui a un mépris pour les valeurs et les personnes qui ne partagent pas les mêmes convictions que lui. Il a une posture arrogante. Et c'est un pasteur, Chesterton, 1800, qui donnait une citation, alors même si ce n'est pas tout à fait la bonne citation, mais sa logique est respectée, où il dit « L'arrogance, ce n'est pas d'avoir une conviction, mais c'est d'être incapable d'imaginer qu'on puisse se tromper. L'arrogance, ce n'est pas d'avoir une conviction, mais d'être incapable d'imaginer qu'on puisse se tromper. » Ce sont des personnes qui ont une hostilité systématique envers ceux qui pensent différemment, même sur des sujets secondaires, mineurs. Et le problème dans notre époque, c'est qu'on confond souvent le radical et l'extrémiste. On entend souvent, hein, il s'est fait radicaliser pour dire qu'en fin de compte, il est extrémiste. Alors, je reprends ma question, Jésus. Il est radical, il est extrémiste, il est les deux, il est aucun des deux. Il est radical, exactement. Jésus est radical. Radical avec le péché. Il est sans compromis sur l'essentiel. Dieu, la sainteté. Il a une radicalité fidèle au fondement de l'évangile. Il a ses racines. Et il est stable. Il tient. Il a aussi cette humilité de voir que d'autres peuvent avoir aussi partiellement raison. Et même quand il chasse les marchands du temple, il a une autorité, une radicalité, mais sans violence gratuite. Jésus n'est pas un extrémiste. C'est avec amour qu'il vient à ta rencontre. C'est avec joie qu'il te partage cette bonne nouvelle. Cette nouvelle qui nous permet de revenir à Dieu. Alors que cela fait longtemps qu'on est coupé de sa présence à cause de notre péché. Toute cette grâce que nous accumulons sur nous, que nous faisons et qui nous empêche de rentrer à la maison. Auprès du Père, alors que dehors ce n'est que galère et souffrance. Jésus n'est pas extrémiste, car il s'est donné pour toi, pour chacun d'entre nous sur cette croix, pour que tu puisses rentrer à la maison. Reviens auprès du Père, rentre à la maison, il attend ton retour, il attend son fils, sa fille, qu'il revienne à lui. Et le seul moyen pour que tu puisses rentrer, c'est à travers Jésus. Seul lui te montre le chemin pour rentrer à la maison. Alors ce matin, ne passe pas à côté de cet immense amour. Accepte Jésus et viens nous voir à la fin, les responsables, si tu veux vraiment rentrer à la maison. Ne passe pas à côté de ça. Reviens auprès du Père. Reviens près de Dieu. Jésus n'est pas un extrémiste. Il est radical. Mais la Bible nous montre que certains étaient radicaux, mais pas envers l'Évangile. Ils puisaient leurs racines dans quelque chose d'autre, eux-mêmes. Un radical charnel, un radicalisme charnel. Alors dans l'Évangile de Marc, au chapitre 10, c'est assez marrant, on nous parle d'une drôle d'histoire. On nous raconte l'histoire de deux frangins. Je vous lis ça. Alors, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchèrent de Jésus et lui dirent « Maître, nous désirons que tu fasses pour nous ce que nous allons te demander. »« Ah, que désirez-vous que je fasse pour vous ?» leur dit-il. Ils répondirent « Accorde-nous de siéger l'un à ta droite, l'autre à ta gauche, lorsque tu seras dans la gloire. » On n'est plus là sur un radicalisme pour Christ, mais pour soi-même. Et malheureusement, souvent, quand on se radicalise charnellement, cela se transforme très vite en extrémiste. Et regardez ce que Luc 9 nous montre. On suit toujours nos deux frangins, là. Alors Luc 9 qui dit... Il, c'est Jésus, envoya devant lui quelques messagers. En cours de route, ils entrèrent dans un village de la Samarie pour lui préparer un logement. Mais les Samaritains lui refusèrent l'hospitalité parce qu'il se rendait à Jérusalem. Ah, les Samaritains, ils n'aimaient pas ça. En voyant cela, les disciples, Jacques et Jean, s'écrièrent « Seigneur, veux-tu que nous commandions à la foudre de tomber du ciel sur ces gens-là pour les réduire en cendres. » Voilà. Il faut qu'on rajoute encore quelque chose. Vous avez vu ce basculement? Et voilà comment on passe d'un radicalisme à un extrémisme. Tous les extrémistes sont radicaux, mais tous les radicaux ne sont pas extrémistes. Et moi, je veux être radical avec mon péché. Je veux être radical avec ma fidélité à Dieu, mais je veux comprendre les autres, les aimer. Je ne veux pas être extrémiste, leur imposer ma loi. Je veux être radical avec moi-même pour ne pas me mettre au centre. Je veux être radical dans l'amour que j'ai pour ma femme, pour mes enfants. Mais au-dessus de tout, je veux être radical en Christ. Je veux puiser mes racines dans cette bonne nouvelle en Christ. Vous savez, c'est comme beaucoup de sujets que l'on peut trouver et on peut vite basculer. Alors vous verrez, je vais vous donner quelques exemples, ça va être sympa. Je vous donne quelques exemples. Il y en a par exemple qui font école à la maison. Et c'est cool, c'est bien de faire école à la maison. Et un chrétien radical dirait, ben, moi je crois que l'école à la maison est la meilleure option pour ma famille. Mais je respecte ceux qui choisissent autre chose, qui font autrement. Mais un chrétien extrémiste, il dirait, si tu n'éduques pas tes enfants à la maison, tu es un mauvais parent et un chrétien tiède. J'ai déjà entendu ce genre de choses. Vous voyez, comme on bascule vite fait. Et cela, on le retrouve dans plein d'exemples. Prenez le Covid. Un mauvais souvenir, hein, avec les vaccins et les masques. Vous vous souvenez comment on s'est déchiré aussi des fois dans l'Église, entre-déchiré des fois sur certains sujets, parce qu'on n'était pas d'accord. C'est là qu'on voit que certains radicalismes, ben, et on en a fait une idolâtre, une idolâtrie. Et pendant le Covid, certains frères ont fait de leur position sur le masque ou le vaccin un test de fidélité à Dieu. Et comme si ne pas refuser catégoriquement tout ce que les mesures sanitaires nous donnaient, ben c'était trahir Jésus, trahir Christ. Et d'autres chrétiens, par contre, tout autant sincères et qui aiment tout autant Jésus et sa parole, ont eu des positions différentes sur ces questions-là. Certains ont obéi aux autorités par souci du bien commun, comme ce que Romains 13 nous demande de faire. D'autres ont résisté par conviction de liberté chrétienne, comme ce que Acte 5 nous demande. Les deux peuvent être légitimes. Mais quand on commence à traiter l'autre camp de chrétiens de seconde zone, on tombe dans l'orgueil que Jacques et Jean avaient. Alors comment on fait pour être radical, mais de la bonne radicalité, de peur de tomber dans l'extrémiste? Je vais relire le passage clé pour que vous l'ayez en tête. Quoi qu'il en soit, menez une vie digne de l'Évangile en vrai citoyen de son royaume. Tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi fondée sur la bonne nouvelle. Waouh, tout un programme, hein. C'est compliqué, non, d'être unis. Et quand nous regardons les différents mouvements d'Église, on se dit que c'est difficile aussi, hein. C'est pas gagné. Comment faisons-nous pour tenir ensemble alors que nous pouvons avoir des désaccords entre nous? Comment faisons-nous pour prêcher la même chose, la bonne nouvelle, alors que nous ne sommes pas d'accord sur tous les points? Je vais vous donner un autre exemple tout bête. J'aimerais que vous puissiez me donner votre opinion si je dis création ou évolution. Allez, on va se taper un peu dessus là. Allez, c'est parti. Qui pense que la Terre a été créée à des milliers d'années, un peu ce que les évolutionnistes nous donnent, et que l'homme descend tout doucement du singe? Alors maintenant, ils disent plus que c'est du singe, mais voilà. Alors, qui pense à ça? N'ayez pas peur, hein, on ne va pas vous jeter des pierres, ok? Je vous jetterai des pierres quand même. Merci. Ok. Ensuite, qui pense maintenant que Dieu a créé la Terre, même en des millions d'années, par exemple? Ok. Qu'est-ce que j'ai dit? Avant, j'ai dit que l'homme descend du singe, ou voilà, tu vois. Donc, je te jette plus de pierres. Ok, ok. Donc, parce qu'il y a les évolutionnistes, hein, où l'homme descend du singe, etc. On a les créationnistes qui disent que finalement, il y a eu aussi, par exemple, des milliards d'années, mais que Dieu a tout guidé et qu'il a quand même mis l'homme en plein milieu. Donc j'ai vu un peu plus de mains, et qui pense que Dieu a créé maintenant la Terre en 6 jours de 24 heures? Moi je lève la main parce que c'est mon cas, mais voilà. Ok, d'accord. Vous voyez, on n'est pas égaux. On ne pense pas tout à fait la même chose. Moi je suis un créationniste pur de 6 jours de 24 heures. On peut en discuter. Je peux vous donner mes arguments. On peut en réfléchir ensemble. Mais cela ne change rien sur le fait que je vous aime de tout mon cœur, même si nous ne sommes pas d'accord. Bon, ok, quand Jésus reviendra, il me donnera raison, bah, c'est tout, vous ne pouvez pas tous être parfaits, quoi, hein, c'est tout. Non, je plaisante. Bien sûr que je vous respecte à fond dans vos pensées et vous avez bien plus raison que moi dans beaucoup de domaines que je ne maîtrise même pas. Le problème, c'est que des églises et des mouvements se sont tapés dessus pour des questions mineures. Et cela ne doit en aucun cas être comme cela dans nos assemblées. Raphaël Hansenberger, ça c'est le directeur de France Évangélisation, c'est mon chef, raconte que trop souvent les chrétiens se disputent la couleur de la tapisserie. Alors, je ne vous dis pas en CE combien on a réfléchi pour la couleur de notre rideau. Et le problème, c'est qu'on ne voit pas les bulldozers à l'extérieur prêts à la détruire. Vous voyez, des fois, on est bloqué sur des choses mineures et on ne regarde pas ce qui est à l'extérieur. On vit dans une société qui est de plus en plus hostile à l'Évangile. Et ça, il faut le comprendre. Alors arrêtons de nous acharner sur la tapisserie, s'il vous plaît. Mais ça veut dire quoi ? Est-ce que ça fait de nous des chrétiens minimalistes ? On prend ce que nous voulons, c'est un buffet, c'est au choix finalement, et tout le monde a raison, tout le monde est beau et tout le monde sera sauvé ? Non, ce n'est pas ça, car là on est devenu laxiste. Et malheureusement des églises sont comme ça, hein ? On veut être tellement dans le compromis que si Jésus n'est pas ton Dieu, c'est pas si grave que ça, tu seras quand même sauvé. C'est faux. C'est faux, et ça, il faut le dire. C'est grave. Et en même temps, si nous mettons toutes les doctrines au même pied d'égalité, comme tout vient de Dieu, ce n'est pas une bonne approche non plus. Nous pouvons devenir légalistes. Par exemple, je vous donne un exemple. Aux États-Unis, on a une église qui demande à ses membres de signer une charte pour dire « Ok, il faut que vous soyez créationniste de 6 jours ». Bon, alors là, déjà, dans l'église, on n'a quasiment plus personne. Il faut être cessationnisme, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de gros miracles du Saint-Esprit après les apôtres. La gouvernance d'église par les anciens, le baptême par immersion et que par immersion, pas par aspersion, la Pentecôte comme naissance de l'église et pas avant ou pas après, l'enlèvement de l'église avec la grande tribulation et l'accomplissement littéral et futur des prophéties concernant Israël. Waouh! Et si je ne suis pas d'accord sur un de ces points, je ne peux pas être membre de cette église. Difficile, hein ? Comment on fait ? Pour que vous puissiez vraiment vous en sortir, je vais vous donner une méthode. Alors, ce n'est pas la mienne, elle vient du directeur de l'Institut biblique de Bruxelles, c'est Jem Eli Hutchinson. Alors, je ne sais pas si ça vous parle, il a écrit un livre qui est vraiment excellent, et il a sorti justement un truc vraiment bien, une très très bonne méthode. Car le texte de notre jour, au verset 10, alors je ne l'ai pas mis, mais au verset 10, Paul nous dit « pour que vous puissiez discerner ce qui est important ». Et James nous dit que toutes les doctrines sont importantes, mais on peut quand même les classer. Et pour cela, nous allons voir 3 cercles, les uns dans les autres. Vous allez voir, vous allez vite comprendre. Alors le premier cercle, c'est celui qui est au centre. On va le nommer le cercle A. C'est celui qui représente les doctrines essentielles. Voilà, le cercle A, ce sont les doctrines essentielles. Ce qu'on y met à l'intérieur de ce cercle A, on n'y transige pas. On n'y discute pas. Si on n'est pas d'accord, c'est qu'on n'est tout simplement pas chrétien. À l'intérieur de ce cercle A, nous trouvons par exemple la résurrection de Christ. Christ pleinement Dieu, pleinement homme. Christ qui est là depuis le début. Dieu qui est là depuis le début, la chute. Si nous remettons en cause ce qu'il y a dans le cercle A, vous n'êtes pas chrétien. Peut-être témoin de Jéhovah ou une autre mouvance. Mais pas attaché au corps du Christ. Ce cercle A, on le défend jusqu'à la mort. Quand Christ nous demande de défendre l'évangile jusqu'à la mort, c'est ça, c'est ce cercle A, l'évangile, la bonne nouvelle, ce qu'on met à l'intérieur. C'est ce que nous croyons, c'est nos racines, c'est là-dedans que nous puisons, c'est là-dedans que nous sommes solidement ancrés. Notre radicalité, c'est le cercle A. Le deuxième cercle, qui englobe le cercle A, on va l'appeler le cercle B. C'est celui des doctrines importantes, qui sont directement liées à l'évangile. Par exemple, le baptême. Qu'est-ce qu'on fait avec le baptême? Immersion, aspersion, pédobaptiste, pour les enfants. Le don du Saint-Esprit, miraculeux. Est-ce qu'il a cessé? Est-ce qu'il persiste encore, les gros miracles comme ça? Le rôle des femmes dans l'Église, la Sainte Cène, du vin, du jus de raisin ou même du jus d'ananas? Vous voyez? Ce sont des choses, on peut en discuter. On peut ne pas tout à fait être d'accord. Alors attention, on n'en discute pas à la légère. Il va falloir qu'on discute bien dans l'Église et qu'on dise voilà notre position, nous l'Église évangélique de Bouxwiller, on a pris tel et tel choix. Mais d'autres églises ont pris d'autres choix qui ne touchent pas le cercle A, qui touchent le cercle B. Dans le cercle B, on a le droit de discuter, de ne pas être d'accord et quand même être frères et sœurs. Alors c'est sûr que si vous n'êtes pas pédobaptiste, donc le baptême pour les enfants, ça va être difficile d'aller chez les luthériens, les calvinistes ou les catholiques. Mais ce n'est pas pour autant que ce sont des chrétiens de seconde zone. Ils deviennent en quelque sorte chrétiens de seconde zone quand ils touchent au cercle A, mais pas le B. Quant au troisième cercle, on va l'appeler le cercle C, qui englobe tous les autres cercles. Et c'est le cercle qui n'a aucun rapport avec les deux premiers, comme la couleur de la tapisserie. Ou la longueur des jupes des filles. À un moment donné, ça faisait débat ça, dans les églises. La musique que nous écoutons, comme les vaccins ou les masques, tout ceci n'a aucun rapport avec l'évangile. Alors je ne dis pas que c'est forcément évident de savoir ce que nous mettons dans les trois cercles. Et suivant les époques, les circonstances, on peut bouger certaines choses, passer des choses du cercle B au cercle C ou du C au B, mais on ne touche pas au A. Le A ne bouge pas. Le A, c'est l'évangile, c'est la base, la Trinité, un seul Dieu en trois personnes, Père, Fils, Saint-Esprit, co-éternel et co-égal. La divinité de Jésus-Christ, 100% Dieu, 100% homme, né d'une vierge, sans péché. La résurrection corporelle de Christ, physiquement, c'est pas un symbole, c'est vérité. Vraiment, Christ est vraiment ressuscité physiquement. Et c'est le signe de notre future résurrection. Le salut par grâce seul, qui est un don de Dieu reçu par la foi, sans les œuvres. Ah, là aussi, il y a des mouvements d'église qui ont commencé à dévier et à sortir, en fin de compte, du christianisme, parce qu'ils disaient, oui, c'est grâce, mais ça serait bien que tu fasses quand même quelques œuvres. Non, tout par grâce. La substitution pénale, ok, ça c'est un gros mot, c'est juste pour dire que Christ a porté nos péchés et a subi la colère de Dieu à notre place. Voilà, on n'a plus rien à payer, c'est lui qui a payé. L'autorité et la suffisance des Écritures, la parole et la Bible, la parole, la Bible, elle est inspirée de Dieu, sans erreur et suffisante pour la foi. Ça c'est encore difficile pour certaines personnes de croire que la Bible elle est infaillible, inhérente. Le péché originel et la dépravation totale, l'homme est mort spirituellement à cause de la chute d'Adam. Et c'est là où moi j'ai un peu du mal avec l'évolution, parce que le problème c'est que si l'homme effectivement descend du singe, ben où est la chute? Où est la chute? Ça veut dire que tout a été fait parfaitement? Mais du coup, voilà. Et si ça n'a pas été parfaitement fait, alors on n'a pas besoin de Christ non plus, vous voyez ? Le jugement final, tous comparaîtront devant Dieu et nous irons soit avec lui, on rentre à la maison, soit loin de lui, ce que la Bible appelle l'enfer. Voilà pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Le reste, on en discute, hein, pour ce qui est du cercle B. Ce que je vous disais, création, évolution, hein, ce n'est pas grave, on peut en débattre, mais attention. Si on commence à dire effectivement que la matière était là dès le départ, ben alors ça veut dire que Dieu n'est pas éternel. On commence à toucher au cercle A. Ce que je vous ai donné comme exemple juste avant sur la chute, si on dit que ça n'a pas été créé parfaitement et qu'il n'y a pas de chute, on commence à toucher au cercle A. Vous voyez ? Donc, on peut discuter, mais attention de ne pas rentrer dans le cercle A. Et pour le cercle C, on se détend. Ce n'est pas si important que ça. D'accord ? Je ne dis pas qu'il ne faut pas en discuter. Et je ne dis pas que ce n'est pas des choses qui nous touchent. Je vous donne encore un exemple. L'éducation de nos enfants. Voilà. Alors ça, c'est tout un mystère. C'est quelque chose qui nous touche et on a envie qu'ils réussissent, par exemple, à l'école, dans les devoirs, au travail. Mais en même temps, ce n'est pas l'essentiel. L'essentiel, c'est que nos enfants s'attachent à Christ, qu'ils puisent leurs racines dans le cercle A. J'ai un pasteur que j'avais entendu qui disait, moi j'ai 3 enfants, 2 qui ont super bien étudié. Ben alors là, en tant que parent, t'es content. Et 1, c'est une catastrophe à l'école. Mais en même temps, ce n'est pas ça que je veux leur laisser. Je veux qu'ils puisent leur fondement en Christ. Parce qu'une fois qu'ils connaissent Christ, c'est bon, moi en tant que père, je peux partir. Ils connaissent Christ, ils savent que Christ va les guider là où il faut. Et même si, point de vue école, travail, c'est difficile, ils ont Christ. C'est l'essentiel. Allez, je conclue en relisant mon texte. Ah, il n'y a plus rien. Et voici ce que je demande dans mes prières, c'est que notre amour gagne de plus en plus en pleine connaissance et en parfait discernement, pour que vous puissiez discerner ce qui est important. Et plus loin, quoi qu'il en soit, mener une vie digne de l'évangile du Christ, en vrai citoyen de son royaume. Ainsi que je vienne vous voir ou que je reste loin de vous, je pourrai apprendre que vous tenez bon, unis par un même esprit, luttant ensemble d'un même cœur pour la foi, fondée sur la bonne nouvelle, sur le cercle A. Soyez radical, mais pas extrémiste. Je vous laisse 4 points pour cette semaine, pour que vous puissiez être radical sans être extrémiste. Lisez votre Bible constamment, encore et encore, pour vous rappeler les priorités, l'amour de Christ par exemple. Restez dans une église équilibrée. La nôtre par exemple. Elle est super équilibrée la nôtre. On ne se tape jamais dessus, ça va bien toujours, c'est génial quoi. Rester dans une église équilibrée, c'est ce que Proverbe 27 nous demande, hein, d'être vraiment fraternel ensemble. Mais c'est important, si vous voyez une église qui commence à dire il faut faire ça, 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 et que ça commence à toucher le cercle B, voire même le cercle C, il y a danger. Étudier l'histoire de l'église, alors ça j'en ai pas parlé, mais c'est très intéressant de voir comment est-ce que nos pères, avec les désaccords qu'ils avaient, ont réussi à s'entendre. Je prends les exemples de Wesley et Whitefield, qui ont eu de gros désaccords. Ou alors simplement relisez les confessions des églises. C'est très intéressant de voir qu'est-ce qu'ils ont mis dans le cercle A, qu'est-ce qui est le plus important pour eux. Et quatrième chose, discerner l'essentiel du secondaire, du mineur. Vous connaissez maintenant la catégorie A, B et C. Eh bien, tout au long, je vous donne cet exercice, tout au long de cette semaine, mais également tout le temps finalement, hein, analyser ce qui se trouve dans le cercle A, B ou C, tout ce qui vous passe à l'esprit, je ne sais pas, en discutant avec les gens, et puis peut-être quelque chose qui vous vient à l'esprit, et là vous vous dites, ok, ça je le mettrai où? Dans le cercle B, dans le cercle C, dans le cercle A? Je ne dis pas que ce n'est pas toujours évident, hein, et là vous pouvez demander conseil, mais c'est important que vous puissiez vous dire, ouais, ça c'est important, je le mets dans le A, et c'est là que je puise mes valeurs. Après, il y a des choses dans le cercle B, comme nous, notre église, qui décidons de ne pas faire de baptême d'enfants, et bien c'est important pour nous. Voilà. Ne soyons pas non plus intransigeants avec les autres, parce que c'est important c'est important qu'il y a aussi d'autres visions, tant qu'ils ne touchent pas au cercle A. Amen. Je vais encore prier. Seigneur Jésus, je sais que je suis tellement imparfait et que j'arrive tellement vite à ne pas être radical avec mon péché, avec toi. Et quand je le suis, je tombe tellement vite dans l'extrême. Permets-moi toujours d'être accroché à toi, toujours amoureux de toi, radical dans ton évangile et en même temps être ouvert à entendre les autres, à les comprendre, à voir que je peux aussi me tromper, que d'autres qui ne font pas comme moi, qui ne pensent pas comme moi, soient tout autant justifiés par toi. Permets-moi d'apporter toujours fidèlement ta parole. Amen.